d'apprécier la carte sommaire, d'apercevoir les grandes lignes. C'est la seconde lecture qui triomphe des obstacles. On est alors tout surpris de voir s'évanouir des difficultés, jugées d'abord insurmontables. La suite des idées n'échappe plus, parce qu'on sait où l'on est conduit. Donc une lecture pour s'orienter, une autre pour vraiment comprendre. Messieurs, la méthode préconisée ici pour la lecture en général doit être pratiquée par tout lecteur des évangiles. La lecture fractionnée doit être corrigée, complétée par la lecture cursive. Pour réagir contre l'abus du fractionnement, dit un spécialiste du Nouveau Testament, il est nécessaire de lire d'un trait de longs fragments. Pourquoi ne pas parcourir de temps en temps une lettre tout entière ou le sermon sur la montagne sans s'arrêter? Sans doute bien des détails réclament une méditation plus prolongée. Mais est-il si indispensable de lire toujours de la même manière? Pour saisir l'intention de l'auteur, il faut dominer les détails et embrasser tout un paragraphe, si ce n'est l'écrit dans sa totalité. Quand on revient ensuite aux détails, ils sont éclairés par la pensée qui les dirige. Ne faisons pas de la Bible, messieurs, une collection de passages détachés. La division en chapitres et en versets est relativement récente. Elle est commode pour les recherches, mais elle est artificielle et ne provient pas des auteurs eux-mêmes qui n'ont jamais songé à découper ainsi leurs écrits. Il peut arriver qu'en isolant une parole de celle qui l'entoure, nous en dénaturions le sens. Adolphe Monod, parlant sur son lit de mort de la lecture des Écritures, en recommande ainsi la lecture courante. À n'étudier que les détails dans leur isolement, on risque de s'égarer et de perdre la vraie mesure des choses. Il faut les considérer dans leur ensemble pour leur assigner à chacun sa place respective. Voilà pourquoi, à la lecture analytique lente qui s'arrête aux paroles isolées, il est bon d'ajouter une lecture plus rapide qui permette de saisir la pensée d'un auteur dans son entier. Nous pouvons distinguer deux manières pratiques de pratiquer la lecture cursive de l'Écriture. Il n'était pas rare autrefois de rencontrer des chrétiens qui s'imposaient une tâche à remplir chaque jour de manière à lire la Bible en entier dans un temps déterminé, dans l'espace d'une année par exemple. Une autre forme de lecture cursive consiste à lire de suite tout un livre ou une série de chapitres formant un tout, de façon à recevoir une impression d'ensemble. On ne comprend un livre qu'en le lisant de temps en temps dans son ensemble. Messieurs, le sentiment d'un des grands prédicateurs protestants du XIXe siècle est aussi celui d'un des grands prédicateurs catholiques du XVIIe siècle. C'est pour Fénelon défigurer l'Écriture que de ne la faire connaître aux chrétiens que par des passages détachés. Ces passages, tout beaux qu'ils sont, ne peuvent seuls faire sentir toute leur beauté quand on n'en conçoit point la suite. Car tout est suivi dans l'Écriture, et cette suite est ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux. Faute de la connaître, on prend ces passages à contresens, on leur fait dire tout ce qu'on veut, et on se contente de certaines interprétations ingénieuses qui, étant arbitraires, n'ont aucune force pour persuader les hommes et pour redresser les mœurs. Seuls, messieurs, la lecture cursive des évangiles permettra de saisir le rapport des évangiles entre eux, leurs ressemblances et leurs différences, et de voir l'ensemble du panorama évangélique, et pas seulement quelques-uns de ses aspects, ceux que par habitude ou par goût, on considère le plus souvent et le plus volontiers. Ainsi, messieurs, qui dit lecture sérieuse, dit du même coup lecture courante des évangiles. J'ai dit. La prochaine conférence...